chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Le livre de Georges Bordeneuve, Louis XVI, qui fait partie de la série « Les rois qui ont fait la France » et le Marie-Antoinette de René Benjamin font ses émissions consacrées à Louis XVI. René Benjamin raconte la Révolution. Toutes les nuées se rejoignent. L'orage est prêt. Il sera tout de suite d'une violence inouïe, mais c'est qu'aussi l'orgueil commande. Il n'y a pas plus meurtrier, et c'est encore que le ministre Loménie de Brienne, dans une heure de délire, au moment où l'horizon le plus noir légitime les pires craintes, où il n'y a plus qu'à tenter de se préserver avec sang-froid, annonce que les états généraux seront convoqués et exhorte en ces termes les meilleurs citoyens. Tous les savants, toutes les personnes instruites du royaume sont sollicitées d'expédier leurs renseignements et mémoires sur ce qui doit être observé pour rendre l'Assemblée aussi nationale qu'il faut. Les savants, les personnes instruites, il y a de quoi définitivement trembler. En 3 semaines, la France écrit plus qu'elle n'a écrit en 30 ans et elle ne cessait d'écrire. Mais désormais, elle a perdu le sens de la grâce. Elle écrit des choses compactes et absolues. Sans air ni vie, rien n'est plus terrible que la passion de l'esprit, que l'intelligence seule, raisonnant et décidant en souverain despotique, sans le cœur, sans le corps, ces deux ministres débonnaires, pauvres gens, qui croyaient lutter contre des tyrans. Quel nom leur réserver ! Ils veulent détruire la monarchie, écraser le christianisme, mais en même temps, ils proclament l'éminente dignité de l'homme et ils en font un dieu. Et un roi, c'est la démence. Elle n'est pas tellement dans l'esprit subversif qui a toujours existé en France, qui existait déjà quand le cruel César y vint pour mettre de l'ordre. Le français fut toujours un révolutionnaire dans un cadre. Mais maintenant, le cadre est par terre. Et le portrait de l'homme s'est boursouflé. Dumont a écrit « Comment peindre la confusion des idées, le dérèglement des imaginations, le burlesque des notions populaires ?» On aurait cru voir le monde au lendemain de la création. Ce qu'on ne peut nier, c'est la folle allégresse que l'orgueil a d'abord donnée. La nuit du 4 août, puis les fêtes de la Fédération le prouvent bien. Il y eut une sorte de contagion du bonheur dans le brouillard léger des idées vagues. Paris, en juillet 90, on a trouvé 200 000 personnes qui ont voulu piocher, bêcher, traîner des brouettes sur le Champ de Mars pour faire en 7 jours une vallée entre 2 collines. Après quoi, les fédérés sont arrivés des 4 coins de la France et on a vu toutes les provinces s'embrasser en pleurant. Jamais on a tant pleuré. L'homme, dressé sur un piédestal, sanglote littéralement. Est-il attendri de sa victoire ou son enflure l'affaiblit-elle? En tout cas, parmi ses sanglots, il ne parle qu'un langage qui est lui-même, enflé. Le ministre Lebrun ayant une petite fille, lui donne 3 prénoms. Civilisation, Gemap, République. La pauvre enfant, quelle mascarade! Si la mascarade n'était que dans les prénoms. Elle est à l'Assemblée. Et par les rues, une des plus cocasses, c'est celle des 60 vagabonds, payés 12 francs par tête. déguisé en turc, espagnol, persan, hollandais, arabe et chinois, conduit par le Prussien Anacharsis Klotz, qui, admis aux honneurs de la séance, viennent, au nom du genre humain, dire leur fête aux tyrans. Mais c'est encore dans le genre macabre, parce qu'il permet le plus de larmes, que le vrai révolutionnaire trouve le meilleur placement de sa sensiblerie, quand en 92, on tire du bagne de Brest les malheureux soldats suisses, ignominieusement condamnés après l'affaire de Châteauvieux, on les promène dans Paris, et leurs chaînes brisées sont portées par des jeunes filles en blanc. Il faut entendre Michelet. « Ces vierges, dit-il, touchées sans hésitation le fer rouillé des galères, purifiées par leurs mains. » Le 27 août 92, on fête les morts, du 10 en un inénarrable cortège. Veuves et orphelins, vêtus de robes blanches, à ceinture noire, portent dans une arche la pétition du 17 juillet 91 qui a demandé vainement la République. Après quoi s'avancent d'énormes sarcophages noirs, lesquels pourraient contenir tous les morts de la fatigue journée. Puis, une statue géante. En toc, la loi, entourée de petits juges, en vrai, et une plus colossale, la liberté, suivie des représentants de l'Assemblée nationale. Ces deux statues, couvertes de somptueuses étoffes, le lendemain, on les avait abandonnées sur une place. Elles étaient nues, et les royalistes s'esclaffaient. Que dire enfin de l'enterrement de Marat, du cadavre repeint par David, couché sur un drap mouillé qui devait évoquer la baignoire, des arrosages en cours de route, des cris et des pleurs du peuple ameuté. Ce peuple pleure parce qu'on a tué, mais lui-même a les mains rouges de sang. Il ne sait plus ce qu'il fait, il est au milieu de l'orage révolutionnaire, comme le roi Lear sur sa lande. Le bruit de la tempête oratoire est assourdissant, alors il divague en répétant de grands mots qui le font entrer en convulsion. Pas seulement égalité, liberté, mais des phrases comme « impôts consentis par le peuple » air connu. C'est si beau que des groupements, des délégations, des députations sont en transe. Passion forte et jugement faible, a dit Chénier, qui traite ces braillards de brouillons corrupteurs. Leur instinct, en combattant le christianisme, ne les a pas trompés. Ils ont très vite perdu le contrôle. Or, le chrétien ne le perd jamais. Ils n'ont plus dans leur délire aucune humilité. Le dernier des hommes du peuple se croit tout-puissant parce qu'il parle. Écoutons ce qu'il dit et ce qu'on lui dit. Marat lui dit, en propres termes, « Une reine perverse fanatise un roi imbécile et élève ses louveteaux à la tyrannie. Ceci n'est encore que le style empoulé. Il y a le style gréco-romain qui fait plus d'effet parce qu'on ne le comprend pas. Au moment de Varennes, Desmoulins s'écrie, « Messieurs, il serait malheureux que cet homme perfide nous fût ramené. Qu'en ferions-nous ? Il viendrait comme Tersite nous verser des larmes grasses dont parle Homère. » Et l'homme de la rue répète comme il peut, bien entendu, « Roi perfide, tyran, monstre, Tersite, vice, abcès. » quand un journal lui annonce que Louis XVI pleure à chaudes larmes de sottise que lui fait faire l'Autrichienne, un instant, il a envie de pleurer aussi. Mais il se ravise en entendant Danton demander aux Jacobins qu'on le déclare imbécile au nom de l'humanité. Ce qu'il y a de plus vrai à dire sur le peuple, c'est qu'elle est à plaindre, cahotée, ballottée, entre des vocables qui ont pris une place, une santé, une vigueur monstrueuse. Il ne sait plus. Il reste imbécile, tantôt puéril, tantôt féroce. Ceux qui sortent de lui, mais qui s'élèvent au-dessus de lui, ont conscience de ce qu'il est, le mène, se joue de sa faiblesse. Le 3 septembre 92, quand une foule crapuleuse arrive au temple, traînant le corps et la tête de la princesse de Lamballe pour massacrer à leur tour le roi et la reine, Daujon, le garde, harangue les assassins. Et voici comme il raconte la scène. Je leur fis sentir combien il serait impolitique de se priver d'otages si précieux au moment où l'ennemi était le maître de nos frontières. D'un autre côté, ne serait-ce pas démontrer leur innocence que de ne pas oser les juger? C'est plus digne d'un grand peuple de frapper sur l'échafaud un roi coupable de trahison. Il y a l'appel à la ruse, sous un air de bon sens, à la cruauté, sous le masque de l'audace, et enfin au petit élément de dignité solennelle qui habite le plus médiocre. L'ensemble est écœurant, mais le goujat a sauvé, ce jour-là, la famille royale. La populace a reculé, et il conclut. Ma harangue ridicule fut appréciée. Il se connaît. Parmi les haines qui assaillaient Marie-Antoinette avec cette sécheresse qu'a seul l'esprit péremptoire, quelques hommes pourtant se penchèrent sur elle, lui donnant de l'amitié, de la tendresse et de l'amour. J'ai dit comment elle les voyait et comment peu à peu elle avait désespéré d'eux. Mais eux, pour elle, qu'espéraient-ils? Dans cette tourmente, ont-ils pensé qu'ils étaient de taille à la sauver? Il semble que Louis XVI, Fersen, Barnave le voulurent sans le pouvoir. Il semble même que Mirabeau le voulait et le pouvait, mais la mort le lui a interdit. Louis XVI finit par éprouver une grande affection pour la reine après avoir connu toute une gamme de sentiments. Il commença par la méfiance. On la lui avait apprise. Sa tante, Madame Adélaïde, ce poison, avait dû lui persuader que la petite rousse serait renvoyée dans sa famille. Et l'y engager, puisque le mariage n'était pas consommé, à rester dans cette expectative. Elle lui avait dit « Votre mère était de la maison de Saxe, méfiez-vous de l'Autriche !» Il s'en méfia, jusqu'au jour où l'Autrichienne le conquit. Alors il se décida à être père, et il en eut du ravissement. Ce roi, privé d'amour, quand il y goûta, y fut comme asservi. Il passa de la défiance à la confiance. Il crut en la reine. Elle avait une vitalité qu'il admirait, mais s'il avait eu tort de se défier, il n'eut pas moins tort de laisser voir son admiration, car la reine, qui l'avait énervée se sentant libre, exagéra sa liberté. Il lui donna des bijoux, de l'argent, des palais. Il savait pourtant que tous ces cadeaux n'effaceraient pas un début de mariage douloureux. D'ailleurs, puisqu'il la laissait seule à Trianon et que l'argent servait à des fêtes auxquelles il n'assistait pas, Marie-Antoinette continuait de n'avoir qu'un fantôme de mari. Il fut assez humble et lucide pour se l'avouer. L'aveu fait, il fut assez bon pour accepter qu'elle essayât sans lui d'avoir du bonheur. Le comte Saint-Priest dit dans ses mémoires, elle avait trouvé le moyen de lui faire agréer sa liaison avec le comte de Fersen. Le moyen ne fut pas d'elle. Il y eut la charité du roi. Je dis charité pour montrer l'élévation de sa bonté, car après avoir été bon, il fut assez digne, la veille de sa mort, pour écrire dans son testament qu'il ne gardait rien contre la reine, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Ce ne fut pas un mari complaisant, mais il mettait son bonheur à en donner aux autres. Comprenant la liberté de ses sujets, il admit aussi celle de sa femme. Et il eut pour elle un geste qu'il n'eut pas pour son peuple. C'est pour sa femme, quand les amours de Marie-Antoinette et de Fersen en étaient à la période la plus chaude, qu'il risqua le seul acte d'énergie de sa vie, puisque ce fut pour elle qu'il fit arrêter le cardinal de Rohan. Certes, on le vit d'autres fois s'opposer, se défendre quand il rejeta Robespierre comme éducateur de ses enfants, quand malgré les menaces hideuses du 20 juin, il refusa de reprendre son veto sur la question religieuse. Mais dans les deux cas, il n'avait qu'à résister à l'action des autres. Là, il agit. Ce fut la seule fois. Il agit en obéissant au sentiment simple et profond qu'il avait de la justice. Justement, il avait désiré, peu avant l'affaire de Rohan, redonner des brillants à sa femme, et elle l'avait détourné de ce geste généreux. Qu'on l'accusa maintenant de vouloir un collier, il s'indigna. Le commandement était aussi contraire à sa nature que le don de créer la sympathie. Louis XVI fut l'opposé du chef. Son avènement le terrifia, tandis que Louis XV agonise, Marie-Antoinette écrit « Monsieur le Dauphin est immobile de crainte, et dès qu'il est mort, le roi, après avoir fait des lettres et donné des ordres, ne peut s'empêcher de venir de temps en temps pleurer avec moi. J'ai des moments de frisson. J'ai peur. » Mais il paraît se ressaisir, il travaille tant qu'il peut en priant sa femme de l'aider, et très touchant de le faire aimer. Il voudrait tant qu'on l'aime. Voici le sacre. Il est à Reims, dans le cœur de la cathédrale, la couronne royale sur la tête. « Elle me gêne, dit-il. C'est la couronne de France, et il est le roi d'Ifto, tout au plus. Il croit que régner, c'est rendre heureux les bons. » Alors qu'il s'agit de les défendre contre les mauvais, en menant les uns avec les autres. Tout cela d'ailleurs n'est que bonnes intentions, théories, rêveries, attendrissements sur soi, puisqu'il est à Versailles loin du peuple et n'en a pas l'expérience directe. Dès que les événements tournent au tragique, il a une hantise, ne pas verser le sang. C'est ce que Bouillet appelle sa cruelle bonté. La force des autres ne l'effraie pas, mais il est terrifié à l'idée de paraître fort lui-même, et il préfère sacrifier repos, bonheur jusqu'à la vie, plutôt que de répandre une goutte de sang pour sa défense. Il s'oublie. Faute capitale chez un roi, puisque c'est de lui d'abord qu'on a besoin. Et dans la crainte de représailles qui atteindraient les autres, il cède. Il cède toujours, surtout. Il cède à la calomnie. Le lieutenant général de police laisse tout au long du règne outrager la reine et les prisons d'État ne renferment jamais un seul calomniateur. Il cède à l'opinion. Dès le mariage de Figaro, à maintes reprises, il dit « non ». Il finit par dire « oui » et il ajoute « après tout, ce n'est pas la peine de contrecarrer le sentiment public ». Il lui cède en rétablissant les parlements, en rappelant Necker, en convoquant les notables, puis les états généraux. Il cède, surtout à ses ministres. Pendant 2 ans au conseil, dit Saint-Priest, je ne l'ai jamais entendu émettre un seul avis. Il était de l'avis du ministre prépondérant, et souvent, il dormait. L'émeute le réveille, sans le changer, il cède toujours. Le 23 juin 1789, quand on lui rapporte la tonitruante réponse de Mirabeau à Drebrézé, il hoche la tête puis dit « Ils veulent rester ? Qu'ils restent ?» Le 14 juillet, il apprend la prise de la Bastille. « Ah ah » fait-il, « c'est une révolte ?» On lui répond « Non, sire, une révolution. » Il fait signe, alors, l'air de dire « tant pis ». Le 17, on lui dit « il faut aller à Paris ». Il répond « bien, j'y vais ». Le 6 octobre 1789, il est comme frappé de stupeur. Il entend dans la cour du château des coups de fusil tirés en l'air parmi des cris atroces. Il va du balcon à un fauteuil de sa chambre, puis il y retourne sur ce balcon sans une parole. Partira-t-il? Ne partira-t-il pas? On lui ordonne enfin. Partons! Et il part. Il arrive à Paris avec la reine et ses enfants. Il croyait aller aux Tuileries. On lui explique. Non, non, d'abord à l'hôtel de ville. Il dit, soit. Et il y va. Le 14 juillet 1790, il s'agit de prêter serment à la Constitution. Bon, il prête. Le 20 juin 1791, après bien des hésitations, même des refus, il cède à la reine et à Fersen. Il se résigne à fuir. Surtout pour Marie-Antoinette, c'est clair. Car il laisse en partant à l'Assemblée une note piteuse où il se plaint des Tuileries. « Il n'y a pas rencontré, dit-il, les agréments que se procurent les personnes aisées. » Il ajoute que sa femme est une épouse fidèle qui vient de mettre le comble à sa bonne conduite et il est indigné qu'en octobre, on ait parlé de la mettre au couvent. Le 22 juin, on l'arrête. L'Assemblée lui envoie l'ordre de rentrer. Il dit « Rentrons ». Il a entendu les habitants de Varennes qui crient, qui menacent. Il a encore peur que le sang ne soit répandu. Et maintenant qu'il est sur le chemin du retour, ayant une fois de plus cédé à la pression populaire, il croit, en arrivant à Châlons, qu'il peut se mettre au lit et dormir. Mais voici les ouvriers de Reims. Les fenêtres sont couchées en joue. Il se lève, il paraît sur le balcon. On hurle « Paris, Paris !» Et il dit « Puisqu'on m'y force, je vais repartir. » Le 14 septembre, il est prié de se rendre à la Constituante pour jurer de nouveau qu'il sera fidèle à la nation et à la loi. Il s'y rend et jure de nouveau. Le 20 juin 1792, les Tuileries sont envahies par une populace qui vocifère et exige qu'il mette sur sa tête un bonnet phrygien. Il le met. Le 10 août, à l'aube, quand tout Paris gronde et que l'assaut est imminent, la reine, qui a veillé pendant qu'il dormait pour soutenir les courages et enflammer les cœurs, le supplie de passer la revue de ses troupes. Il la passe. 2 heures plus tard, Roderer veut qu'il passe à l'Assemblée. Il y passe. Après quoi, il pousse le soupir de soulagement le plus grand de sa vie. « Je suis prisonnier, je ne peux plus rien. » Enfin. Et il se laissera juger et tuer parce qu'ils le veulent. Il fut un philanthrope passif à l'heure où il fallait à la France une politique implacable ou un roi militaire. Pauvre monarque qui avait des soldats, mais ne leur donna qu'un ordre durant tout son règne. Et ce fut dans cette funeste journée du 10 août, juste avant d'être dépossédé du pouvoir. Les Suisses, héroïques, se faisaient massacrer pour lui. Il leur envoya de sa cage de l'Assemblée, où il avait provisoirement la vie sauve, mais où il était épouvanté d'apprendre que le sang coulait, l'ordre de regagner leur casernement. Casernement, voilà un mot à son usage, le contraire du mot combat. Fersen a vu les défaillances du roi et a cru pouvoir se substituer à lui, mais il n'était pas de taille. Il eût fallu, pour sauver la reine, qu'il brûlât d'une passion impérieuse, aveugle, et ce n'était pas Don Quichotte. C'est le comte Fersen, suédois prudent, distingué, homme à bonne fortune, sans passion. Pendant tout le temps qu'il aime la reine, il a des maîtresses. Comment pourrait-il l'aimer comme elle l'aime? Elle, s'il avait été en danger, elle l'aurait peut-être sauvé, l'amour l'eût inspiré. Elle l'adorait. Mais lui, n'avait que de la pitié pour échauffer son imagination. Il ignore cette maladie, ce vertige, ce délire qu'est l'amour. Madame de Korff a dit de lui « Sous une écorce de glace, c'est une âme de feu. » Ce qui prouve qu'il a toujours trompé les femmes, la reine la première. Mais il n'y a pas que sa faute. Les femmes viennent à lui, l'aiment, l'accaparent, le fatiguent. Avant, comme pendant la Révolution, Marie-Antoinette pour lui fut d'abord une victime. Dès 1784, il écrit à sa sœur « Je commence à être plus heureux car je vois de temps en temps mon amie librement chez elle. Et cela nous console un peu de tous les maux qu'elle éprouve. Pauvre femme, c'est un ange de bonté, une héroïne de courage et de sensibilité. Jamais on n'a aimé comme cela. » Ainsi, il dit lui-même l'amour unique qu'elle a pour lui. De sa part, c'est de la tendresse, ce que tant d'hommes peuvent avoir, si bien que quand, après 150 ans, on écrit avec cœur l'histoire des infortunes de cette femme, on se demande si on n'a pas pour elle un sentiment presque plus vif que Fersen. C'est Georges Bordeneuve qui conclura cette émission. La terre a bu le sang. Les querelles se sont effacées, les souvenirs se sont refroidis comme les cendres. Ne reste que les reliques. J'ai vu, dit Bordeneuve, la tabatière d'or donnée par Louis XVI le 10 août 1792 à l'un de ceux que l'on nommait alors chevalier du poignard, et dans la main d'un vieil homme qui m'était cher ô combien, la tasse de porcelaine blanche dans laquelle, le même jour, avant de partir pour l'assemblée du manège, Marie-Antoinette but une gorgée de café. Cette tasse n'avait jamais été lavée. Elle gardait encore un fond brunâtre, une trace de lèvres. Le même vieil homme possédait aussi un médaillon contenant les cheveux du dauphin. Il croyait que Louis XVII n'était pas mort au temple. Ailleurs se trouve le dernier message envoyé par la reine à Axel de Fersen. Il ne le reçut que le 21 janvier 1794. Elle avait été exécutée le 16 octobre précédent. C'était une empreinte sur un morceau de carte. Elle représentait une colombe aux ailes étendues avec cette devise « Tutto a te me guida »« Tout me conduit à toi » murmure. Chuchotement de l'histoire. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée, réalisée et mise en musique par Roland Richard dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.